Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La maison des enfants » est un roman historique de Mario Escobar, inspiré d'un épisode réel de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, à partir du drame vécu par des enfants juifs menacés de déportation à Amsterdam en 1942. Le livre reconstitue l'action de trois figures hollandaises qui ont participé à leur sauvetage au péril de leur vie. Le récit s'inscrit dans la lignée des romans historiques de l'auteur, consacrés à la mémoire des persécutions nazies et à des destins individuels confrontés à la violence des régimes totalitaires. Plus qu'une simple reconstitution, l'ouvrage cherche à montrer comment le courage ordinaire peut devenir un acte décisif face à l'injustice. Il intéressera donc autant les lecteurs de fiction historique que ceux qui recherchent une approche accessible, documentée et mémorielle de l'Holocauste. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un roman historique fondé sur un épisode réel de la résistance néerlandaise. Le livre ne se contente pas d'utiliser la Seconde Guerre mondiale comme décor, il s'appuie sur une histoire authentique, centrée sur le sauvetage de plus de 600 enfants juifs aux Pays-Bas. Mario Escobar choisit une forme romanesque pour rendre lisible un événement historique complexe, en combinant la rigueur du contexte avec les ressorts narratifs de la fiction. Ce choix permet d'aborder la résistance non pas seulement par les grandes figures militaires ou politiques, mais par des acteurs civils dont l'engagement fut discret et déterminant. Le roman rappelle ainsi que l'histoire de l'Holocauste ne se limite pas à la persécution. Elle comprend aussi des gestes de protection souvent improvisés qui ont permis à des victimes de survivre. Cette dimension ancre l'ouvrage dans le roman historique de mémoire, où la narration sert à transmettre un fait réel sans l'enfermer dans un registre purement documentaire. Deuxièmement, Amsterdam occupait la mécanique de la déportation et l'urgence du sauvetage. L'un des intérêts du livre tient à sa reconstruction du climat de terreur à Amsterdam en 1942. Lorsque l'occupation nazie transforme la vie quotidienne en système de surveillance, d'exclusion et de danger permanent. Les enfants juifs attendent leur déportation dans des lieux de rassemblement qui symbolisent la bureaucratisation de la violence. Le roman montre alors comment le mal prend une forme administrative et organisée, ce qui rend le sauvetage d'autant plus difficile. Dans ce cadre, l'ouvrage met en scène l'invention de stratégies concrètes pour contourner l'appareil nazi, notamment grâce à la collaboration de plusieurs personnes aux profils différents. Le suspense ne vient pas d'une intrigue artificielle, mais de la fragilité même des gestes de protection. Cette mise en scène permet au lecteur de comprendre que sauver des vies dans un tel contexte ne relevait pas d'un héroïsme abstrait, mais d'une série de décisions risquées, précises et immédiatement menacées par la répression. Troisièmement, Johan van Hulst, Henriette Pimentel et Walter Suskind, trois formes de courage complémentaires. Le livre met en avant trois figures centrales, dont les rôles se complètent dans l'opération de sauvetage. Johan van Hulst incarne l'initiative morale et le sens de la responsabilité face à une situation intolérable. Henriette Pimentel représente l'engagement de terrain lié à l'accueil et à la prise en charge concrète des enfants. Walter Suskind, contraint de coopérer avec l'occupant, illustre quant à lui la complexité des positions imposées par la machine nazie, où l'action résistante devait souvent passer par des zones grises et des compromis tragiques. En présentant ces trajectoires ensemble, le roman évite une vision simplifiée du bien et du mal. Il montre que la résistance peut prendre des formes différentes selon la place occupée par chacun dans le système. Cette pluralité de profils donne au récit sa profondeur morale. Le courage n'y est pas défini par l'absence de peur, mais par la capacité à agir dans un cadre où presque toute action expose à la mort. Quatrièmement, la famille séfarade comme porte d'entrée émotionnelle et historique. Mario Escobar utilise le destin d'une famille séfarade, cherchant à échapper à son sort pour donner une perspective humaine à l'événement historique. Ce dispositif narratif permet au lecteur d'entrer dans la guerre par l'expérience concrète des victimes, plutôt que par une simple chronologie des faits. La présence de cette famille relie l'histoire collective du sauvetage à des destins individuels marqués par l'angoisse, la séparation et l'incertitude. Cela renforce aussi l'idée que la persécution nazie ne visait pas des catégories abstraites, mais des personnes précises, avec leur langue, leurs liens et leur mémoire. Le roman fait ainsi dialoguer la grande histoire et l'histoire intime. En choisissant d'une famille comme fil conducteur, l'auteur donne une cohérence émotionnelle au récit sans réduire la portée historique de l'ensemble. Ce procédé rend également plus visible la dimension universelle du livre derrière la référence au judaïsme séfarade et au contexte néerlandais. Il s'agit d'une réflexion sur la vulnérabilité des civils face à la persécution. En dernier lieu, mémoire, pardon et responsabilité, la portée morale du récit. Au-delà du récit de sauvetage, le livre interroge la mémoire des crimes nazis et la responsabilité des témoins. Mario Escobar insiste sur la nécessité de ne pas laisser ces noms disparaître dans l'oubli, ce qui place l'ouvrage dans une démarche mémorielle assumée. Le roman ne cherche pas seulement à émouvoir, Il veut aussi rappeler que l'indifférence facilite les systèmes de persécution. Cette orientation lui permet d'aborder des thèmes plus larges comme le mal, les préjugés, la dignité humaine et le pardon. Le texte prend alors une valeur réflexive, il invite à penser ce qui distingue ceux qui obéissent passivement, ceux qui collaborent et ceux qui résistent. Dans le paysage des romans historiques sur l'Holocauste, cette dimension éthique est essentielle, car elle donne au livre une fonction de transmission. Le lecteur en retire non seulement une connaissance historique, mais aussi une compréhension plus fine des mécanismes moraux qui rendent possible soit la complicité, soit le sauvetage. En conclusion, La Maison des Enfants s'adresse d'abord aux lecteurs de romans historiques fondés sur des faits réels, aux personnes intéressées face à l'Holocauste, la résistance civile et les histoires de sauvetage pendant la Seconde Guerre mondiale. Il conviendra aussi à ceux qui recherchent une lecture accessible mais sérieuse sur la mémoire des persécutions nazies. Son principal atout est de relier une intrigue romanesque à un épisode historique précis sans diluer la gravité du sujet. Là où de nombreux romans sur la période se concentrent sur la déportation ou la survie dans les camps, celui-ci met au premier plan l'action de civils qui ont choisi de sauver des enfants au prix de leur propre sécurité. Cette perspective donne au livre une valeur particulière. Il ne montre pas seulement la violence du système nazi, mais aussi les formes concrètes de solidarité qui lui ont résisté. C'est ce mélange de reconstitution historique, d'engagement moral et de narration émotionnelle qui le distingue dans sa catégorie. Si vous souhaitez soutenir Mario Escobar, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!